François Ruffin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du journal indépendant Le Fakir à Amiens, qui est devenu depuis Le Plan B avec le rapprochement avec PLPL. Dans la plaquette du Salon du Livre d'Expression Populaire et Critique Sociale, on vous présente comme militant du journalisme et non journalisme militant. Et vous êtes auteur de 3 livres. On va parler justement de ces 3 ouvrages. Le premier, c'est Les petits soldats du journalisme. Donc c'est quoi? C'est une critique de la formation des journalistes, c'est ça?
C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'école qui était supposée être la meilleure école de journalisme de France, sinon d'Europe, nous disait-on, c'est-à-dire le centre de formation des journalistes à Paris. Et donc j'ai pu observer un peu le système médiatique de l'intérieur, sachant que dans cette école, il y avait des intervenants qui venaient de TF1, du Parisien, de France Info, de France Culture, de Europe 1, du Monde, et ainsi de suite. Donc c'était un peu un lieu où se concentrer. Oui, on pouvait analyser tous les médias à partir d'un seul point. Donc, l'une des premières choses, par exemple, qui m'a surpris en entrant dans cette école, c'est l'absence d'une bibliothèque. Je veux dire, tous les lycées, toutes les écoles, la moindre école primaire a une bibliothèque à l'intérieur de son lieu. Et dans cette école de journalistes, qui était donc, je le répète, supposée être la meilleure de France, sinon d'Europe, d'où sortent Laurent Geoffrin, Patrick Poivre d'Arvor, David Pujadas, et ainsi de suite, il n'y avait pas la moindre bibliothèque. Alors ça pourra choquer les gens qui viennent au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, mais voilà, les journalistes peuvent très bien être formés constamment sans livre, et voir traverser leur carrière sans se référer à des ouvrages, quoi, par exemple. Donc c'était une manière de critiquer le système médiatique de l'intérieur.
Alors la critique des médias, c'est une des lignes forces de votre travail, notamment au sein du Plan B. Et le 1er mai, vous participerez aussi à un débat sur l'indépendance de la presse aujourd'hui. Un mot sur ce débat?
L'indépendance, quelle est la marge de manœuvre, la liberté, c'est un vaste débat. Mais simplement, on peut observer à quel point dans les pans de la presse dominante, le débat sur, notamment sur les thèmes sociaux est cloisonné, est interdit. Par exemple, j'avais fait une analyse durant toute une année du Nouvel Observateur. Il n'était pas question une seule fois d'intérim, d'accident du travail, de logement. La seule fois où on parlait de logement, c'était une une du Nouvel Observateur sur la passion des maisons de campagne avec des dossiers spéciaux immobiliers qui permettaient d'aller profiter des bonnes affaires à Paris et en province. Aujourd'hui, par exemple, on voit... Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un comme Maurice Allais. Maurice Allais, c'est un économiste, c'est le seul prix Nobel français d'économie. Il a été longtemps consacré, extrêmement apprécié du Figaro ou des Échos, et puis à partir d'un moment, il a dit, c'était un homme plutôt de droite, mais il a dit l'Europe telle qu'elle est, ça ne fonctionne pas du tout. Ce qu'il faut, c'est revenir à davantage de protectionnisme, et il a pris parti pour le non au traité constitutionnel européen. Et ben, à partir de ce moment-là, il avait porte close au Figaro, aux Échos, au Monde ou à Libération. Le seul endroit où il a pu s'exprimer, lui, qui était un anticommuniste virulent, ça a été dans l'Humanité à l'occasion du 29 mai 2005. Et le premier entretien qui paraîtra depuis des années de Maurice Allais, c'est dans les colonnes du journal Fakir, donc mon journal. Mais donc c'est quand même un peu préoccupant quand le seul prix Nobel français d'économie peut s'exprimer de manière aussi marginale dans le journal Fakir et peut pas s'exprimer dans la presse dominante, où s'expriment en revanche plus largement les tenants des systèmes libéraux que sont Minc, Attali, Pascal Lamy et ainsi de suite, quoi, qui sont supposés être nos grands experts.
Alors on l'a dit, vous venez d'Amiens et vous avez aussi écrit un bouquin sur la ville d'Amiens qui s'appelle Le Quartier Nord. Donc ça raconte à travers des interviews, des témoignages, la vie des habitants d'Amiens Nord, c'est ça?
D'Amiens Nord, enfin je dirais que quand Proust parle de Combray, il ne parle pas de Combray, je ne vais pas me comparer à Proust, mais quand je parle d'Amiens Nord, il me semble que je ne parle pas que d'Amiens Nord. Je parle des quartiers populaires en général, c'est-à-dire on a une actualité, l'actualité des médias qui va nous parler de Sarkozy, enfin il va y avoir des petits faits, un fait divers qui va surgir avec un enfant mordu par un chien, enfin ça va être le battement de tambour quotidien des médias. Et puis derrière ça, il s'agissait de voir comment vivre vraiment les classes populaires aujourd'hui. aujourd'hui, c'est-à-dire en matière de crédit, en matière de logement, en matière de travail, en matière dans à peu près tous les domaines. Et donc, effectivement, pendant 2 ans, je me suis consacré à suivre des jeunes qui vont chercher du boulot dans les agences d'intérim, d'autres qui vont pour essayer de régler leurs histoires de crédit dans les agences Sofenco et ainsi de suite, quoi.
Et dernier ouvrage dans votre bibliographie, donc ça s'appelle La guerre des classes, c'est paru chez Fayard. C'est quoi l'idée de départ de ce bouquin ?
L'idée de départ de ce bouquin, c'est simplement une phrase de Warren Buffett. Warren Buffett, qui est la première fortune mondiale et qui déclarait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, celle des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et je pense que Warren Buffett avait pleinement raison. Il ne s'agit pas de prendre cette phrase comme une provocation, mais au contraire comme une vérité. Effectivement, ce sont les riches qui mènent la guerre des classes et ce sont les riches qui en ce moment sont en train de la remporter. Ce qui est surprenant, c'est que cette notion de guerre des classes que moi j'osais pas utiliser, même si je l'avais dans la tête, parce qu'on a peur de passer pour un stalinien, un manichéen, un démagogue, un populiste et ainsi de suite, ça soit la première fortune mondiale qui l'emploie. Et à partir de ce moment-là, ça a contribué personnellement à me décomplexer. Et je pense que ça peut contribuer à décomplexer pas mal de personnes de gauche, quoi.
Alors comment vous avez travaillé autour de cette idée ? Vous avez fait un détour par l'histoire, ou comment vous avez travaillé autour de l'idée de départ ?
J'ai travaillé notamment sur le discours politique, c'est-à-dire que mon analyse de la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. Et je considérais pas que c'était de la faute des médias. Certes, les médias avaient pu aider Nicolas Sarkozy, mais je considérais que c'était d'abord de la faute de la gauche, que c'était d'abord du fait que cette guerre des classes, c'est Warren Buffet qui l'énonce, et pas Marie-Georges Buffet. C'est quand on lit les discours de Ségolène Royal, il y a aucune fois dans ses discours où elle se réfère au profit record et aux dividendes monstres qu'avaient versé les sociétés du CAC 40 l'année où se déroulait la présidentielle. Donc c'est notamment par les différents reportages que j'ai pu réaliser dans des entreprises et puis tout ça, de voir la guerre des classes à l'œuvre, de voir sa réalité statistique et ensuite de voir que c'est complètement absent du discours public, quoi.
Un mot sur ces entretiens que vous avez menés au sein de quelles entreprises ? Comment vous avez procédé pour ces entretiens ?
Non, mais en fait, c'est pas comme si j'avais mené des entretiens. Moi, je suis en reportage permanent.
Ouais.
C'est mon travail, donc toutes les semaines, je suis en reportage dans une boîte. J'ai pu me trouver à Bourg-en-Bresse dans les boîtes où on plume des poulets et à dormir le soir dans un foyer d'hébergement social qui allait fermer, où travaillent les travailleurs intérimaires venus par exemple du nord de la France, de Besançon, qui vont à Bourg-en-Bresse pour plumer les poulets de Bresse, pardon. Et puis la semaine d'après, je me suis retrouvé au tournoi du polo sur glace à Megève. Alors polo sur glace, vous savez, c'est ce sport où il y a des chevaux et puis les gens sont sur des chevaux et font avancer une balle. Et on a calculé avec l'un des participants que la minute de polo sur glace revenait à environ 3000 euros. Donc là, vous avez un contraste saisissant d'une semaine sur l'autre à quelques kilomètres près, parce que Bourg-en-Bresse, c'est sur la route de Megève, quoi. Les participants du tournoi de polo était hébergé dans un chalet qui s'appelle le chalet d'essence, avec sauna, hammam et tout ça, et où il payait 40 000 euros la semaine.